Bon, bah, les jeunes, ils ont déjà gagné un truc, en fait. Il n'y aura pas de généralisation tout de suite du SNU et il y a une revalorisation des bourses en septembre.
Comme quoi, ils ont peur des jeunes, hein. On le dit à chaque fois. Dès que les jeunes crament deux, trois trucs, ils se mettent à paniquer, en gros.
Mais Anas Nadel, il est flippant aussi. Moi, il me fait peur. Bon alors, c'est quoi ce bordel là? Tout le monde casse tout, même les jeunes des grandes écoles, les Black Bourges qui déversent une violence inouïe sur les panneaux JC Deco. Vous branlez quoi le soir là? Vous avez pas des UE à rattraper? Sociologie du wokisme, géophysique du gender, je sais pas ce qu'ils font à la fac. Tu sais, moi je suis un gros con. Je lis Franc-Tireur, j'écoute les informés de France Info. Je vois bien que je me désagrège intellectuellement.
Oui, ok, par contre, on parlait pas du tout de ça. Reprends-toi, on parlait des violences.
Oui, les violences. Les jeunes à Sainte-Soline, ils voulaient engager leurs convictions dans la bataille, pas leur pronostic vital. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec les Schmitt là? Ils étaient tranquilles pendant des semaines et là, ça y est, les chiens sont lâchés.
Non mais attends, avant tout, est-ce que tu condamnes les violences? Je parle de la violence des manifestants, hein, pas celle légitime de notre police républicaine, certes parfois fatiguée, mais néanmoins détentrice du monopole de Max Weber.
Oui voilà, on va commencer par là, on va commencer par écouter du Nathalie Saclic.
La notion de violence légitime est une notion qui a tendance à se répandre comme si finalement, pour la bonne cause, on pouvait se permettre de faire tout et n'importe quoi, y compris de s'en prendre à des humains. Parce que s'en prendre à du matériel, c'est une chose, mais s'en prendre effectivement à des humains, c'est une tentative d'homicide.
Alors on vous rassure tout de suite, Nathalie Saint-Cric va très bien, hein, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas émis la moindre critique sur le maintien de l'ordre à la française.
Eh ben oui, ce qu'elle a dit, ça aurait pu être pertinent, mais en fait là, elle parle des violences des manifestants. Et donc voilà, c'était pour faire une expérience, comme quoi quand on retourne complètement ce qu'a dit Nathalie Saint-Cric, des fois ça peut faire sens, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus supportable.
Bon, on va essayer de se ménager un petit peu, parce que le sujet d'aujourd'hui, il est compliqué. D'ailleurs, Usul, tu n'as pas répondu à la seule question qu'il faut se poser, est-ce que tu condamnes les violences?
Moi, je soutiens les manifestants.
Et j'aimerais qu'on ait un discours un petit peu plus clair pour condamner la violence. On peut soutenir les manifestants, c'est votre droit. Et condamner les violences, je pense qu'on a intérêt à distinguer. Et je rends aussi hommage aux forces de l'ordre parce que...
D'ailleurs, est-ce que tu rends hommage aux forces de l'ordre, Usul?
Mais non, là, ils font n'importe quoi. T'as vu Sainte-Soline? T'as vu Loopsider, là, la vidéo?
Le média en ligne Loopsider a révélé le 24 mars dernier des enregistrements effectués à l'insu des forces de l'ordre lors d'une interpellation effectuée par la désormais fameuse Brave M, cette brigade motorisée qui déambule dans Paris pour arrêter des jeunes au pif parce qu'il y a des feux de poubelle. Ces enregistrements sont accablants, on y entend des humiliations, des bruits de claques et des menaces.
Oh, tu sais pas, en plus, t'es sur Paname, tu fais trop de chaud, tu traînes, moi, te choper, tu vas rien comprendre. Ou ben, même si tu veux, je vais te choper, hein. j'enlève ça, pas de soucis. J'enlève même ça parce qu'après tu vas encore dire que j'avais des coups de jarre et que je t'ai mis une manchette.
Notre violence, elle a le monopole de la...
Légitime.
Le monopole de la légitime. Je peux te péter les dents, c'est écrit dans la sociologie, j'ai le droit.
Force de l'ordre.
Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Mais... T'inquiète pas.
Nous en tant que police, nous avons le pouvoir de convoyer les individus en direction d'une unité de soins de proximité ou même d'un CHU. Alors j'espère que tu as ta carte vitale, espèce de grosse merde.
Ah, c'est mon collègue, il connaît plein de mots, attention, hein, c'est lui qui invente les procès verbales. Hein.
Donc t'es pas content?
Outrage à agent.
Outrage à agent et rébellion de surcroît.
Oh, de surcroît, elle est bien celle-là aussi. Hein. Il est fort.
Bref, tout cet échange a un peu choqué les gens. Enfin, les gens qui savaient pas encore qu'on recrutait ce genre de gars dans la police républicaine. Le problème, c'est qu'apparemment, impossible d'identifier ces gars.
T'imagines, l'inspecteur de l'IGPN, il arrive dans le bureau des flics et il dit « Ouais, les gars, on cherche un mec, il parle un petit peu comme un mec de génération identitaire, il est raciste, il est violent, il menace des gens, vous voyez lequel c'est ?»
Bah, c'est-à-dire que ça correspond quand même à beaucoup de signalements, hein. Ici, c'est pas la police scientifique, mais c'est pas non plus la police littéraire. Vous avez l'embarras du choix, brigadier.
Alors, ils n'ont pas été identifiés formellement. Le préfet de police a cependant dit tout à l'heure à la conférence de presse qu'il ne serait pas engagé à les manifestations de demain. Il y a eu 17 enquêtes de l'inspection générale de la police nationale diligentées.
Comment ils peuvent ne pas être engagés s'ils n'ont pas été identifiés?
Parle de la section. Après, il y a les hommes dans la section.
Sauf que Street Press est allé vérifier, et quelle surprise, l'unité était quand même là, déployée dans Paris. Il y a même une petite photo, notre champion, là, celui que vous avez entendu, il a pu aller se défouler à l'ancienne.
Bon, ça c'est un exemple, mais on aurait pu parler de ceux qui flashballent dans le tas, de ceux qui tirent des grenades au hasard, de ceux qui foncent dans la foule, et maintenant on en a même qui roulent sur les manifestants avec leur moto.
Ouais, mais on sait pas ce qui s'est passé avant, hein. Ça se trouve ils ont été provoqués.
Vous utilisez le terme provoquer, donc forcément si vous provoquez ce qu'il y a de plus violent dans notre pays qui est l'État... Forcément, il va être très violent. C'est comme provoquer un chien très violent. Il va être très violent. Donc après, on peut discuter. Vous avez raison.
Drôle de comparaison.
Alors elle, c'est Laetitia Strauch-Bonnard de L'Express, et elle nous explique que bah, les flics, c'est comme ça, hein, c'est des fous furieux. Faut même pas les regarder dans les yeux, sinon ils te sautent à la gorge. Et dans le genre contre son camp, elle va même nous dire qu'on vit dans un état policier, et que c'est normal, et que c'est comme ça, c'est le contrat social.
L'état policier protège d'autres gens.
Mais vous rigolez ou quoi?
Non, je ne rigole pas.
Policier,
mais laissez-moi finir.
L'état policier.
Quand l'état réagit à ce genre de situation, ou quand l'État réagit dans la rue à des manifestations qui débordent, même s'il réagit mal, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut discuter de la façon dont il réagit. Il fait ça pour protéger le reste de la population qui est pacifique.
Ouais, sauf que vos petits jeunes très mobiles, là, ils viennent pas taper des gens pacifiques, ils viennent juste casser des panneaux. Ils viennent pas vous péter la gueule à vous. Ça, c'est les flics qui tapent les gens au hasard. Hein,
bon, attention avec les jeunes quand même, parce qu'ici, on a des images d'envoyés spéciaux qui sont quand même assez insoutenables.
Ah oui, niveau violence, là, oui.
Ouais, ouais.
Et de nouveaux manifestants se radicalisent. Comme ces étudiants en grandes écoles.
Moi, étudiante qui d'habitude a des frissons et ne peut pas regarder des films violents, je me retrouve dans la rue, tellement en colère, que je pense que la violence est malheureusement nécessaire.
Par contre, c'est un peu dangereux quand même, toute cette violence, hein ? Et voilà, tu t'es fait mal. Et puis c'est aussi et surtout dangereux à cause de la police. Ces jeunes-là, ils prennent de vrais risques, car il semble que depuis le 49-3, la doctrine en matière de maintien de l'ordre a évolué, et pas en bien.
Il y a eu un changement de doctrine qui n'a pas tenu jusqu'au 49-3, lundi soir, quand j'étais dans les rues, où là on a vu quantité de jeunes manifestants, de badauds, être arrêtés abusivement, arbitrairement, de faire 20 heures de garde à vue, des jeunes filles qui témoignaient hier sur le parvis de l'hôtel de ville, qui témoignaient qu'elles ont été nues dans un commissariat, qu'on les prend en photo, piercing par piercing, tatouage par tatouage, avec des commentaires que vous imaginez. C'est ça la police française.
On est d'accord, péter des trucs, c'est illégal. Ça veut dire que si t'es dans la rue en train de taper des trucs avec ton marteau ou de foutre le feu à des poubelles avec ton briquet, bah, tu peux te faire choper.
C'est le jeu, c'est le risque, tu connais les règles. Si un flic t'attrape, et bah, il peut t'arrêter, et tu le sais.
Par contre, normalement, il y a aussi des règles pour les flics. Hein, ils sont pas censés arrêter des gens au pif, remplir les commissariats juste pour vider les rues ou juste pour faire peur.
Sauf que ça n'a pas tout de suite découragé une génération très impliquée parce que précisément, elle pense ne rien avoir à perdre et elle fait le lien entre le travail, la planète et le pouvoir.
Donc le fameux slogan retraite climat même combat. En fait, ce qu'on veut amener et expliquer avec ça, c'est que le système qui sous-tend donc cette réforme des retraites, c'est un système qui nous impose de travailler plus pour produire plus. Et en fait, nous en tant que jeunes, on a envie de se dire mais très bien produire plus, mais pour produire quoi?
Depuis l'annonce du 49-3, on ne reconnaît plus nos jeunes. Ils dansent, ils brûlent, ils font la bagarre. Et en même temps, tout le monde avait prévenu. Il faut écouter les manifs, faut écouter les syndicats parce que sinon on tiendra plus nos troupes. Et ben voilà, ils ont pas écouté, du coup bagarre.
Oui, mais d'accord. Mais est-ce que tu condamnes les violences?
Bah, c'est un peu tard.
Et revenir voir maintenant Céline Verzelletti de la CGT et lui demander de condamner les violences, je trouve ça quand même sacrément culotté.
Est-ce que vous craignez justement que cela dégénère?
Attention!
Et est-ce que vous les condamnez ces violences d'ailleurs?
Voilà, c'est bon, c'est fait.
L'émission elle s'appelle L'Événement, c'était sur France 2 et c'était 2h40 de fun absolu.
Ah si, tu pouvais faire un jeu à boire. Si tu buvais à chaque fois que les bourgeois demandent de condamner les violences, tu pouvais quand même passer une bonne soirée.
Non mais moi je crois qu'il faut être très clair sur la condamnation de toutes les violences. J'ai pas entendu, je condamne les violences. C'était assez simple de dire, est-ce que oui ou non je condamne les violences? Oui, je les condamne. Le préalable en démocratie, c'est d'abord ça.
Et tant que tu n'as pas condamné les violences, Aurore Berger va pas te laisser en placer une.
Ah mais c'est la règle absolue de la démocratie, il faut d'abord condamner les violences,
tout le temps.
Et oui, parce que moi je suis effarée de votre discours. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que vous entendiez?
Bah, elle vient de te le dire, Sandrine, il faut condamner les violences.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous entendiez
ce qui se passe?
La condamnation des violences, Sandrine Rousseau, vous
la
partagez
ou pas?
Comment faut-il
la condamnation des violences?
Avec quels mots? Dites-nous, donnez-nous le code de conduite pour qu'on se conduise bien, si telle est la question.
Parce qu'en fait,
manifestement, il y a eu 3,5 millions de personnes dans la rue où il n'y a pas eu un incident. Il n'y a pas eu un incident. Vous n'avez rien entendu. Mais rien! Rien! Vous étiez sourd, mais totalement sourd et même extrêmement arrogant.
Ah bah oui, elle a mis le doigt sur quelque chose, Sandrine Rousseau. Si on en arrive au feu de poubelle, c'est que tous les autres modes d'action ont été ignorés, voire méprisés par le gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'explique très bien Paloma Moritz dans une émission qui s'appelle C'est ce soir.
C'est ce soir, avec Karim Rissouli. Je sais pas comment on faisait nos OLG avant l'invention par Karim Rissouli de C'est ce soir.
si on en vient aux questions écologiques, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de désobéissance civile aujourd'hui? Parce que tous les autres moyens d'essayer de se faire entendre sur ces questions ont été épuisés. Les pétitions, les marches, etc. Et là, sur cette réforme des retraites, il y a quand même une volonté... Élections. Est-ce que je peux juste dire un mot sur cette réforme des retraites? Il y a eu une volonté de dialogue. Les leaders syndicaux ont demandé à être reçus à l'Élysée. Ça a été refusé. Donc en fait, à tous les endroits où il y aurait pu avoir un débat, où il y aurait pu avoir un dialogue, il n'y en a pas eu. Donc le seul endroit où il peut rester une sorte de dialogue, c'est dans la rue, et il est de plus en plus empêché par les violences policières.
En ce moment, c'est ce soir en plus, c'est leur meilleure saison. Hein. Les plateaux, c'est n'importe quoi, les invités, c'est formidable. Bon, Karim, il commence à être un peu à cran, ceci dit.
Je laisse répondre David Dufresne là-dessus, s'il vous plaît.
Mais oui, mais j'ai une question.
Oui, d'accord, mais
Mais au moins, dans cette émission, il y a un minimum de sérieux.
Oui, puis il faut, parce que sur le sujet de la police, des violences, des black blocs, ça devient très vite n'importe quoi.
On a une organisation des black blocs qui est toujours un peu compliquée, l'extrême gauche qui communique sur le dark web.
L'horizon de tout ça, c'est la guerre civile, évidemment. Alors, vous comprenez, on est dans une situation politique très instable. Nos démocraties sont menacées par des gens qui ne se rendent même pas compte, qui sont manipulés, à mon avis, en partie, parce que via les réseaux sociaux, il faut voir comment les Russes, comment les trolls russes se déchaînent en ce moment.
Voilà, les jeunes dans la rue, là, ils sont manipulés par les Russes et les Chinois, selon le complotiste Brice Couturier. D'ailleurs, tout ça, c'est de la faute aux réseaux sociaux, et ce n'est pas sa collègue de Franc-Tireur qui le contredira.
Les réseaux sociaux, énormément, mais un point dont on n'a pas encore pris la mesure, vraiment, David, parce qu'on a vécu une révolution technologique, qui est une révolution cognitive, qui est une révolution de la politisation, de la socialisation, des représentations.
Caroline Fourest va même plus loin. Les jeunes sont en effet manipulés, mais attendez de voir par qui.
Beaucoup ont été, pas tous, mais certains par exemple, ont été influencés par ceux qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, qui sont rentrés dans la bataille sur la réforme des retraites dans la dernière ligne droite, comme Seb Lafrite ou Léna Situation, je vous cite des noms, je ne sais même pas de quoi je parle, mais...
Ah non, mais vas-y Caroline Fourest, c'est pas parce que tu sais pas de quoi tu parles qu'il faut te taire. Développe un peu sur les influenceurs, moi ça m'intéresse, vas-y, qu'est-ce que t'en penses?
Ce sont des influenceurs qui ne sont pas justement les quelques traits politisés qui peuvent exister, ce sont des influenceurs qui essentiellement racontent leur vie, parlent de leur life, comme on dit, parlent de la mode, vous racontent ce qu'ils mangent. Alors, je ne sais pas si on avait une discussion avec eux, si sincèrement ils connaissent bien le contenu de la réforme et ses enjeux. Donc on ne sait pas trop non plus si ceux qu'ils influencent connaissent bien les enjeux de la réforme.
Voilà, il n'y a que Caroline Fourest qui a le droit de parler de ce qu'elle ne connaît pas. Vous avez compris les jeunes?
Bon, on va passer à autre chose, t'es encore en train de t'énerver.
Non, moi je veux des experts, je veux des analyses, je veux comprendre, je veux Alain Bauer. C'est qui est dans la rue Alain Bauer? Explique-nous, expertise.
Que justement, c'est pas l'ultra-gauche, c'est pas l'ultra-droite, mais c'est plutôt ce que j'appellerais l'ultra-peuple. C'est-à-dire une agrégation de toutes les rageux, de toutes les rages.
Voilà, on n'a qu'à dire que c'était le dernier. On
les va rageux de l'ultra-peuple, non mais vous vous rendez compte? Et tiens, et si on descendait encore d'un cran niveau analyse?
Non, mais on peut aussi passer à autre chose. Et
non, 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 on va y aller. Alors attention, là, on arrive à un niveau, on est à peine au-dessus d'Elisabeth Lévy. Attention, là, on n'a plus pied.
Donc on est effectivement dans un saut dans l'inconnu et probablement étant en train de payer, alors ça c'est un poncif, hein. Je veux pas non plus vous révéler le truc, c'est que le côté manque de gens pour encadrer, c'est frappant, ce soir, il n'y a pas un PS.
Tout le monde s'en fout du PS, Nathalie, tu nous parles depuis les années 90, ça n'est absolument pas pertinent, tu pourrais laisser ta place à des gens qui savent un peu de quoi ils parlent, non, qui
c'est
comprennent...
Bon, je pense que les gens ont compris le propos.
Il y a aussi, comme Olivier Lisée, comme vous le disiez tous, c'est-à-dire cet égalitarisme français qui fait que même si ça ne change rien de taxer les riches, comme on dit, à 90%, parce qu'il n'y a pas assez de riches, très riches, pour aider les pauvres qui sont plus nombreux que tout le monde, on se dit quand même que ça serait bien l'idée que votre voisin soit aussi enquiquiné que vous est quelque chose qui rassure en France.
C'est trop pour moi, là je dis 5 rics d'émission. C'est pas possible ça, en plus regardez, il y a cette pauvre Salomé Saquet, s'est retrouvée là entre Caroline Roux, Olivier Babeau et Gaspard Koenig, c'est horrible la pauvre.
Et on est sur le service public, on est dans un moment de crise et la meuf elle arrive, tout ce qu'elle dit c'est bah oui les Français ils sont comme ça, bah ils sont jaloux, hein, on n'aime pas la réussite dans ce pays. C'est incroyable de médiocrité et cette meuf a dirigé le service politique de France 2 et on peut la voir sur France 5, sur France 1. On la voit partout, je peux plus la voir moi. Prends ta retraite Nathalie, garde tes analyses politiques pour l'apéro, fais comme les autres tatas gênantes, voilà, tu gardes ça pour les moments en famille, on t'en voudra pas,
bon, écoute,
tu
écoute,
dis des conneries, on
écoute,
peut t'ignorer.
Usul, j'ai appelé quelqu'un d'un peu plus sérieux parce que là ça devient n'importe quoi, donc s'il te plaît tu peux te retirer du plateau et puis on va faire quelque chose d'un peu plus posé, voilà. On va finir de façon un petit peu plus posée. Merci à Jean Massier d'être venu pour nous fournir une analyse à tête reposée, un petit peu loin du brouhaha des invectives. Première question, Jean, est-ce que tu condamnes les violences ?
En fait, les violences, elles commencent à s'exprimer dans la rue à partir du moment où les institutions sont incapables de jouer leur rôle de canalisateur du débat politique, avec des arguments, avec des mots, etc. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant à voir dans les débats parlementaires, c'est que l'utilisation d'un outil qui est censé être un truc de sortie de crise, comme le 49-3, qui est censé apaiser le débat politique, devient un générateur de crise politique. Et le vote, qui est censé être le juge de paix dans une démocratie, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de vote à l'Assemblée, il n'y a que les sénateurs qui font un espèce de bout de travail sur les amendements, sur les institutions, etc. Et on arrive à un moment de blocage complètement absurde où c'est normal qu'il n'y ait plus que la rue qui s'exprime, quoi.
D'accord. C'était bien chiant. Ça va mieux ?
C'est bon, je suis calmé, je fais ma voix off de fin.
Bon allez, là on va même mettre une musique un peu grave parce qu'on va dire les vrais gros mots. Est-ce qu'on est en train d'assister à une poutinisation de la Macronie ? Nos voisins sont en train de s'inquiéter pour ce qui se passe chez nous.
Eh bien ici, les commentaires, c'est vrai, sont très sévères et ciblent principalement Emmanuel Macron. Le déficit démocratique de Macron, écrit notamment le Spiegel. Macron se comporte comme un souverain absolu, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Écoutez maintenant cet édito d'Alba Ventura sur RTL. C'est en entendant ça que j'ai vraiment pensé à Poutine, parce que j'imagine que c'est à peu près ça qu'on doit entendre sur les chaînes d'État russes quand Poutine se fait traiter de dictateur par des forces de l'étranger.
Il y en a assez d'Amnesty qui ne juge que le recours à la force et pas la dangerosité des manifestants violents. Il y en a assez du syndicat de la magistrature qui dénonce la répression policière et qui ne rêve que d'anarchie.
Vous avez des pays pour lesquels toute forme de contestation, qu'elle soit étudiante ou pas, est immédiatement qualifiée de terroriste.
Oui.
Ça fait vraiment partie de cette culture de la peur et de l'ennemi dont je parlais tout à l'heure. Et donc si on commence à parler systématiquement de mouvements de contestation comme de mouvements radicalisés ou d'écoterrorisme, etc., on veut jouer sur cette confusion qui est exactement celle sur laquelle jouent les régimes non démocratiques.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que des étudiants, parfois de grandes écoles, viennent casser des trucs dans Paris la nuit ? Oui, sans doute, mais il faut se demander pourquoi. Ils ont beaucoup à perdre. Pourquoi ils font ça ? Ce sont pas des terroristes, des illuminés. Pourquoi ils s'exposent comme ça à la violence policière ? Qu'ils soient mobilisés pour les retraites ou pour la planète, ce qui les rassemble et les motive, c'est sans doute le sentiment d'être extrêmement mal dirigé, d'être maltraité par un régime qui ment, qui manipule et qui violente les opposition. Un régime à bout de souffle, la 5ème République, un régime inventé en 58 à la suite d'un coup d'État, dans un contexte de guerre civile, par un pays qui trouvait encore tolérable de donner autant de pouvoir au chef de l'État, un militaire auréolé du prestige de la résistance.
Bon, y avait un esprit que moi je trouve pas génial sur le plan démocratique, mais un esprit aussi plébiscitaire des fois. C'est-à-dire que face au constat d'un blocage ou d'un doute sur la légitimité, le général de Gaulle, qui est quand même un des concepteurs de ce régime, avait le réflexe de dire on retrempe sa légitimité dans l'onction populaire. Et en fait, on a des présidents qui ont gardé la monopolisation du pouvoir que permettent les outils de la 5e sans jouer de cet aspect plébiscitaire. On peut faire le même reproche à des prédécesseurs, d'ailleurs, ce que juste Emmanuel Macron, Jacques Chirac aussi.
À l'époque, la France était rurale et les enfants de paysans devenaient paysans. Leurs enfants, peut-être, ont fini par avoir le bac. Et les enfants de ces enfants, aujourd'hui, font des études supérieures, montent à la ville et se sentent insultés quand on les prend pour des cons, quand on les infantilise. On ne peut pas gouverner ce peuple-là comme on gouvernait jadis. Je le redis, ça ne passe plus. La violence, le mensonge et l'arrogance du pouvoir sont d'un autre temps. Ça ne passe plus.
Il n'y a pas eu de clarté sur la réforme des retraites.
Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un générique des années 1980.
Qu'est-ce qui est à l'ancienne dans ce qu'il dit ?
En fait, il n'y a aucune espèce de.
Mais pour vous, c'est la rue, la modernité.
La situation dans laquelle nous sommes, mais il n'y a aucune espèce de prise de conscience.
Et proposez quoi, Madame Rousseau ?
D'un modèle économique, d'un modèle tel qu'il fonctionne.
C'est un slogan, ça, Madame Rousseau. C'est pas votre proposition.
C'est quoi votre proposition à part les barbecues ?
Parce qu'en trois petites années, qu'est-ce qu'on a vécu pour des gens de ma génération qui ont vécu dans une relative quiétude dans un petit pays occidental paisible depuis ma naissance.
Les gilets jaunes.
En trois petites années, on se tape la pandémie. On se tape le retour de la guerre sur le continent européen avec la montée des autocraties, le péril et la catastrophe climatique. Et face à ça, moi je suis pas naïf, il va falloir non seulement de la solidarité mais aussi de la discipline collective. Et je pense qu'on n'obtiendra aucun de ces deux piliers en gouvernant de cette façon.
Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de l'élection présidentielle et législative dont M. Macron aurait dû tenir compte ? On a une France qui est divisée en trois blocs. Le bloc central libéral qui s'effrite, le bloc d'extrême droite, le bloc de gauche. Il aurait dû faire preuve d'humilité, se demander comment on allait construire ensemble ce pays-là. À la place d'être le garant de l'unité de la nation, en cherchant ce qui va pouvoir nous rassembler, ce qui va pouvoir nous unir, qu'est-ce qu'il vient mettre ? Il vient semer les brandons là-dessus.
Dans un reportage que France 2 a publié, a diffusé l'autre jour, c'était fascinant. On a fait un reportage sur France 2 pour voir ce que pensaient les électeurs d'Emmanuel Macron. Et on a une brave bourgeoise descendait avec son vélo
certains de ses électeurs aujourd'hui semblent presque s'excuser de leur vote.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
J'avoue avoir voté pour Macron parce que je voulais pas voter les extrêmes.
J'avoue que j'ai voté pour Emmanuel Macron.
Un peu honteuse.
Oui, bah le j'avoue. Le j'avoue, quand on en est à dire j'avoue pour dire, ça veut dire que c'est son propre électorat qui souffre aujourd'hui.
Ouais.
Parce que la fonction de président, c'est pas de mettre le pays au bord du chaos. La fonction de président, c'est la cohésion nationale, l'unité nationale, la paix civile.
Et là, on en est loin de la paix civile. Le régime ne tient plus que par ses flics et ses éléments de langage, autant dire ses mensonges. Il est incapable d'écouter, d'être au diapason de la société et d'être à la hauteur des défis qu'il doit relever. Et c'est parce qu'ils ont compris ça que les activistes de Sainte-Soline résistent et que les étudiants brûlent des poubelles dans Paris la nuit.
Voilà, voilà, voilà. Et quand on sait pas quoi dire, on dit les prochaines semaines seront décisives. À lundi, dans deux semaines.
T'as vu, il a dit que j'étais chiant. Alors qu'en vrai, si tu regardes bien dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à partir du moment où tu déposes les amendements...
On s'en branle, Jean. Tout le monde s'en branle. C'est plus le sujet depuis longtemps.
Mais c'est gentil d'être venu.